16 Gaou et ses invités dans le Club de la Presse tous les jours de lundi au vendredi à partir de 11h sur Canal FM pour le débat.
Oh, shalom.
Production généralement de type artisanal.
C'est chemin faisant que les gens se retrouvent pour parler de ce qu'ils ont démarré alors qu'il y a eu des vacances.
C'est pour soulager les femmes dans tous les secteurs, pas seulement que les portefeuilles.
Mais... Oui, je suis d'accord. Mais je dis pour le moment, il n'y a pas un vide quoi.
On attend et à une période de l'année, ça reprend. Rebelote l'année prochaine, rebelote.
Par rapport à ce dossier-là, franchement...
Moi, je n'ai pas rencontré quelqu'un quand même.
Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Nous sommes le mardi 7 novembre 2023. Nous rendons grâce à Dieu pour cette journée qu'il nous accorde et nous lui demandons de nous inspirer à nous accompagner durant le Club de la Presse de ce jour. Émission que vous êtes déjà disposé à écouter sur Canal FM et sur les antennes de tous ces médias partenaires, que ce soit au Togo, en Afrique et dans le monde entier. Émission réalisée et mise en onde par le duo était Kossi Thomas Datevi et Gérard Kodjo Akucha. Émission que je co-anime avec vous à partir de 12h quand vous allez entrer en scène en composant le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75. Intervenez sur les sujets. Sujet que nous aurons d'abord exposé avec au studio ici, Ambroisine Fifame. Bonjour.
Bonjour Sas, bonjour chères auditrices, chers auditeurs de Canal FM, chers abonnés de l'agence Avonews, vous qui nous lisez, vous nous critiquez, nous vous saluons chaleureusement. C'est avec joie qu'on se retrouve.
La voix toute fémininement douce, mais qui ne manque pas de fermeté. C'est l'agence Savoir News, si je ne m'abuse. C'est le tout premier journal en site ici au Togo, Ambroisine.
La première agence de presse privée.
La première agence de presse privée c'est en ligne. Important. Merci beaucoup. Alors, pour nous accompagner également, Eric Hugues Pakoudjo Johnson, bonjour.
Bonjour Sas, bonjour chers collègues, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM.
Ça c'est la voix de l'Union, journal paru aujourd'hui comme Actu Express également paru aujourd'hui en ligne qui nous délègue son directeur de publication, Isidore Sassou Atialo Akolo, bonjour.
Bonjour Sas, bonjour Ambroisine, bonjour Hugues et bonjour à toutes et à tous. Bonjour.
Merci, l'actualité est assez fournie, ne serait-ce qu'à quand je m'en tiens à vos parutions complétées par les autres journaux parus aujourd'hui. Nous allons essayer dans les 60 minutes de parcourir un certain nombre de vos titres avant d'être rejoint par les auditeurs et auditrices en ligne. Mais avant cela, deux rappels, je ne sais pas qui prend, peut-être oui, Isidore, ça fait un mois. Nous sommes le 7 novembre, ça fait un mois que l'État d'Israël et le mouvement Hamas en Palestine sont en guerre ouverte. Je n'ai pas besoin de décliner les chiffres des blessés, des morts surtout, ou des prises en otage. Déjà, le 7 octobre, les commandos de Hamas qui ont opéré par surprise en Israël avec des scènes qui défraient toutes les chroniques en termes de violence, en termes d'horreur. Quand on voit que les commandos de Hamas s'en sont pris aux vieux de plus de 80 ans, aux jeunes également, à qui ils ont imposé des morts vraiment atroces, également des personnes qu'ils ont enlevées et qu'ils continuent à garder en otage. On annonce le chiffre encore autour de 250 otages, malgré ceux qui ont été libérés. Et depuis, la contre-attaque d'Israël, également, qui défraie la chronique, hier, les victimes palestiniennes dépassaient les 10 000, sans oublier les blessés, les destructions et tout cela. Isidore, c'est cette guerre-là qui tient le monde entier en haleine depuis un mois, et bien malin, qui pourrait siffler la fin de cela.
Ah oui, c'est triste qu'on puisse, au 21e siècle et à l'ère du Verseau, traverser encore ces péripéties. Nous n'allons pas faire le bilan macabre de ce qui se passe, mais je tire sûrement une leçon. Face à ce qui se passe aujourd'hui et en Israël et à Gaza, j'ai l'impression que la communauté internationale a démissionné. Il faut s'en tenir à l'adage de Jésus, l'enseignement qu'il a donné. Quand quelqu'un te gifle par la joue droite, tends-lui la joue gauche. Parce que si tu voulais répliquer, tu vas répliquer, comment dirais-je, plus intensement,
de façon atroce.
Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et on sent le silence coupable de la communauté internationale face à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Je ne dis pas que les Palestiniens ont raison ou Hamas a raison, mais la réaction, vous avez vu, Joe Biden au top est obligé de faire un recadrage.
Le président américain.
Américain. Après avoir cautionné la barbarie. Peut-être c'est dans l'air des temps, nous risquons d'aller à un nouvel ordre international.
Mais vivement que l'irréparable ne soit pas commis d'ici là. Et depuis un mois, on a vu les dirigeants des grands de ce monde défiler dans la région. Joe Biden, le président américain, son ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken, s'y trouve depuis quelques jours. On a vu tour à tour le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz, le premier ministre britannique Rishi Sunak et bien d'autres. Mais la paix tarde toujours à venir. Mais espérons que le bon sens va reprendre le dessus. Et si on quitte un peu le terrain palestinien, on vient chez nous en Afrique, des pays également qui ont des difficultés suite au coup d'état militaire, avec les transitions qui s'en sont suivies, la Guinée, le Mali, le Burkina, le Tchad, le Gabon et le Niger. Et le dernier épisode du Niger en date en Brésil, c'est cet article que j'ai lu sur votre site Savoir News, quand vous écrivez hier que Faure Gnassingbé est désigné ou bien sollicité par le Niger comme facilitateur entre le Niger et la communauté internationale, notamment comment la France va pouvoir rapatrier ses troupes militaires. Le Niger a vivement souhaité que le Togo et les États-Unis d'Amérique soient garants du rapatriement des troupes militaires du Niger.
Oui, le Togo, vous savez, le pays a une certaine expérience dans le domaine des facilitations. C'est aujourd'hui ce qui se passe au Niger et que le chef de l'État soit désigné comme facilitateur entre la communauté internationale, je veux dire, y compris la CDAO et le Niger, c'est passé, sur la base de son expérience connue qui date de plusieurs décennies. Et le pays aujourd'hui, le Niger, est totalement asphyxié, il faut le dire. L'économie est presque à terre. Aujourd'hui, le budget en cours a été réduit de 40%. Vous savez ce que ça veut dire quand un budget en cours d'exécution est réduit à ce niveau-là.
D'une année à l'autre.
Voilà, 40%. Il y a eu un appel à la solidarité nationale. Tous les partenaires pratiquement vraiment enfermer les vannes. Et le pays souffre, il faut le reconnaître. Et il traverse d'énormes difficultés. Aujourd'hui, quelles sont les marges de manœuvre du président de la République togolaise? C'est sa grande force. Aujourd'hui, son expérience en matière de facilitation, de médiation et de tous ces mots qui concourent, toutes ces stratégies qui concourent à la paix. Vous vous souvenez déjà des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali. Ce dossier a suscité de vives tensions. Les positions étaient vraiment tranchées entre ces deux pays frères parce qu'ils partagent aussi une frontière. Et c'était très difficile, pas de concession des deux côtés, mais si le chef de l'État a pu réussir cette facilitation-là, qui a été saluée par la communauté internationale, saluée comme un exploit, moi je pense personnellement qu'il peut encore réussir s'il met en place cette stratégie, car tout ce qu'on appelle négociation, facilitation, médiation, le chef de l'État maîtrise les rouages. Et je me base sur ce qui s'est passé entre le Niger et le Mali pour argumenter ainsi.
La Côte d'Ivoire et le Mali.
La Côte d'Ivoire et le Mali, j'allais dire. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, quand on parle de facilitation et on évoque le Togo. C'est depuis le feu général, il y a des mois que beaucoup de conflits sont passés par le Togo. Alors, je veux quand même revenir sur cette histoire de
Israël, Palestine, notamment la bande de Gaza avec le Hamas.
Oui, ce sont des choses qui arrivent parce que certains hommes manquent d'empathie. Certains hommes ne savent pas ce qu'on appelle amour. Et pour eux, la paix est un vain mot. Et dans ces situations qu'ils créent, et ils y vivent, ils contribuent, ils enflamment, et ils sont raides debout dans
les
bottes.
Avec tous les trafics en matière de vente d'armement, de supposés conseils qui ne font que jeter de l'huile sur le feu.
Des villes, des personnes tombées, je veux dire, ils ont perdu tout ce qu'il y a d'humain en l'homme, tout ce qu'il y a qu'on peut appeler humain. Même les animaux, je dirais qu'ils sont capables d'amour, hein, entre griffes. Et les grands perdants dans ces situations-là, ce sont les femmes. Vous savez, elles perdent non seulement leur mari, leurs enfants, elles perdent leur maison. Elles sont bastonnées, elles sont violées, et un jour, peut-être, une de ces femmes-là aura à répondre à cette douloureuse question, qui est mon père? Parce qu'elle aura été violée et qu'elle aura été obligée de porter.
Merci,
vivement un peu de paix dans notre monde.
Merci. Donc, on a vu, ceux qui ont regardé le journal sur la TVT hier ont vu le numéro 2 de la junte militaire du Niger, aux côtés de Robert Doucet, fait cette déclaration. Le Togo sollicité pour jouer au parrain avec les États-Unis d'Amérique sur le rapatriement des troupes françaises du Niger. Ce ne sera pas une partie facile, mais avec la bonne volonté, on y arrivera. Et nous souhaitons également que ce bon sens prévale également entre Israël et la Palestine, entre la Russie et l'Ukraine, entre le Soudan. Vous savez, le Soudan qui fait face à une guerre civile depuis bientôt 2 mois, entre l'Éthiopie, même une partie de son territoire, il n'y a pas longtemps c'était la guerre, toutes les parties de la terre qui sont affectées par tous ces conflits, nous souhaitons vivement que le bon sens et un minimum d'amour commence quand même prévaloir.
S'il n'y a pas de concession, s'il n'y a pas de volonté manifeste, il n'y aura pas la paix.
Merci.
Il n'y aura pas la paix.
Merci, Ambroisine. Je voudrais plutôt que, si peut-être Eric aussi a un petit mot à placer rapidement avant que nous passions au sujet suivant.
C'est pas un petit mot, mais plutôt une réflexion. Ça, vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de suivre en live une guerre de religion. Nous n'étions pas nés à la création de certaines religions. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre n'est pas autre que qu'une guerre de religion. Vous savez, le Moyen-Orient, comme on le dit, le berceau de plusieurs religions monothéistes. Et cependant, ces religions monothéistes-là qui prônent logiquement la paix montrent...
La paix et l'amour.
Et l'amour montre aujourd'hui qu'en réalité, toutes ces religions-là sont des religions qui divisent. Des religions au sein desquelles l'homme n'est plus au centre de tout, l'homme n'est plus au centre des préoccupations. Ce qui se passe en Israël, entre l'Israël et la Palestine, je veux dire aujourd'hui, vous savez, les gens sont en train de comparer cela à ce qui se passe en Ukraine. Je dis, excusez-moi, mais c'est pas la même chose. En Ukraine, il y a la Russie qui est dans une guerre expansionniste. La Russie qui veut s'accaparer d'un État.
Non, veut reconquérir.
Et tu peux me laisser terminer.
L'un parle, bon, s'il vous plaît.
Oui. Quand il dit reconquérir, oui, reconquérir quoi? Un territoire qui n'est plus tien depuis combien d'années? Est-ce que c'est de cette manière il faut reconquérir un territoire? Aujourd'hui, parce que vous avez l'arme nucléaire, vous menacez tout le monde, vous voulez prendre un État qui a une organisation parfaite, un président, un premier ministre, un gouvernement, etc. Vous allez prendre ça de cette manière. Excusez-moi, mais tu as dit que nous sommes au 21e siècle et tout ça là se passe devant nous. C'est pas normal. Ce qui s'est passé en Israël, par contre, c'est un groupe terroriste qui a attaqué des citoyens, qui a tué des gens froidement. Tout le monde a suivi ça. Et en même temps, un État comme l'Israël, qui, parce que il a des armes, il peut prendre en otage tout un territoire comme la Palestine, et se met à tuer aussi froidement. C'est-à-dire que ce qui se passe, on ne peut pas comprendre. Sommes-nous aujourd'hui encore des humains? Comment réfléchissons-nous? Ambroisine disait que c'est toi plutôt qui disais que la communauté internationale a démissionné. La communauté internationale n'a pas démissionné. C'est parce que les gens ont encore des intérêts là-bas. Ceux qui fabriquent les armes que le Hamas achète, est-ce que ce sont les Palestiniens? Non. Mais ce sont ces puissances-là qui fabriquent ces armes-là que les gens utilisent. Et donc, ils ont encore des intérêts sur cette partie de la terre. Et c'est pour ça
que ça continue.
La question fondamentale, qui a créé Hamas?
Hamas
n'est produit de qui?
On ne peut pas finir cette émission aujourd'hui.
Ok, d'accord.
Parce que c'est une des questions les plus inextricables qui se sont posées à l'humanité. Souhaitons vivement que ça ne dégère pas, que ça ne dégénère pas en des déflagrations qui seraient autrement incontrôlables. Il y a des armes nucléaires qui ne sont pas loin de ce conflit. Souffrez, qu'on mette trois points de suspension.
Non, je voulais réagir par rapport à la médiation qu'elle et Fonia Singui a sollicité aujourd'hui.
Oui.
Et je trouve ça un peu, je ne dirais pas gauche, mais la question fondamentale, est-ce que Fonia Singbe a fait la médiation en interne?
C'est-à-dire?
Fonia Singbe soigne sa stature d'homme de médiateur régional, alors qu'en interne, il verrouille tout. Il verrouille tout.
Ouais,
il va falloir que Fonia Singbe puisse commencer à balayer sa maison avant d'aller balayer la maison d'autrui.
Là, c'est un sujet qui revient souvent ici au plateau. S'il vous plaît. C'est un sujet que nous connaissons très bien. Le médiateur sollicité à l'extérieur, qu'en est-il de sa propre maison? Quelque part, de façon profonde, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et des gens ne manquent pas de le lui rappeler. Autrement dit, c'est ce que Actu Express fait aujourd'hui. Comment Fonia Singbe soigne sa stature de médiateur régional? Ça a été l'objet d'un article paru dans le journal, je crois, Le Monde. la semaine dernière. Et l'auteur de l'article a été reçu sur RFI il y a quelques jours. Ceux qui ont écouté.
J'ai fait la transcription de tout ça
dans Morgan Le Express de ce jour. Mais pour revenir à l'actualité, c'est ce que le médium rappelle, l'option diplomatique de Faure Gnassingbé qui marque l'adhésion de la communauté internationale. Souhaitons qu'il réussisse, en tout cas qu'il n'échoue pas, afin que la paix revienne au Niger, entre le Niger et les pays voisins et dans toute la sous-région.
Que la paix revienne au Togo d'abord.
C'est le sujet que je voulais.
Que la paix revienne au Togo.
Souffrez que nous avancions.
Que la paix revienne au Togo.
S'il te plaît. Aujourd'hui, nous sommes le 7 novembre et nous le rappelons. Le 7 novembre, c'est la journée de l'écrivain africain. 7 novembre, c'est la journée de l'écrivain africain. Alors, j'ai écouté Radio Lomé ce matin, qui a cité quelques écrivains africains depuis les Félix Kouchereau, les David Ananou, Emmanuel Dogbé, Edem Kodjo, Kanyi Alem, Sami Tchak, on ne finirait pas, Kossi Efui. Eh bien, il y a un nouvel écrivain qui vient s'ajouter à la liste. Quelqu'un que vous connaissez très bien, Eric. Nous le connaissons bien parce qu'il nous a fait l'honneur de nous envoyer en primeur son livre. C'est Mustapha Mijiawa, professeur de son état, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, qui a publié il y a quelques temps son essai intitulé « L'approche contractuelle dans les formations sanitaires publiques du Togo ». Une solution au dysfonctionnement des hôpitaux en Afrique. Eh bien, la dernière nouvelle, c'est que Eric, cet ouvrage de Mustapha Mijiawa sera dédicacé le jeudi prochain à 14h30 dans la salle professeur Ahadji Nounou à la présidence de l'université de Lomé. Eric, toute la polémique qui entoure la contractualisation de nos centres de santé, l'essai que le ministre Mijiawa a anti, nul doute que ça fera objet d'intérêt, pour ne pas dire de polémique. Eric.
Oui, c'est tout à fait logique. Lorsqu'on écrit un roman ou un livre, c'est quand même pas pour que tout le monde accepte l'idée qu'on véhicule, mais c'est pour que l'humanité puisse en tirer les leçons, faire des critiques franchement, que je dis, constructives, pour que l'idée portée puisse apporter ses fruits. Le ministre Mijiawa, est professeur de son état, a écrit ce livre-là et, bon, tu l'as dit tout à l'heure, on a été quand même très honorés qu'il nous ait quand même offert cet ouvrage-là, que personnellement j'ai lu et que j'ai eu à tirer mes leçons. D'abord sur ce que c'est que la contractualisation, pourquoi la contractualisation. Comment applique-t-on la contractualisation ailleurs que chez nous, et pourquoi aujourd'hui tout le monde tend vers la contractualisation? Quels sont les résultats auxquels l'on s'attend? Et j'ai vu des chiffres. Mijiawa s'est permis de mettre des graphiques, tout pour expliquer la contractualisation chez nous. Et donc, je crois que c'est vrai, et beaucoup estiment que la contractualisation ne porte pas encore ses fruits, c'est-à-dire les attentes des citoyens sont très grandes par rapport à ce qui se passe et sur le plan médical dans notre pays. Pourtant, on ne peut pas tout rejeter. Il faut quand même...
Eric, ce qu'on va dire, le sujet intéresse beaucoup, non seulement le corps médical, mais la presse, l'opinion. Eh bien, vivement que le maximum du public aille assister à la dédicace. Je rappelle que ce sera le jeudi 9 novembre à 15h à la salle professeur Ahadji Nonou, à la présidence de l'Université de Lomé, et surtout que le livre soit diffusé, que les gens le lisent, le complètent et le critiquent, pourquoi pas, Isidore.
Non, moi je ne vais pas trop m'attarder sur le livre, mais l'auteur du livre, qui est aussi l'auteur de la contractualisation, il est dans une logique d'autosatisfaction, alors qu'on nous avait dit qu'on devait évaluer l'approche contractuelle, il n'a rien fait, et il sort un livre pour se glorifier. Moi, je me pose beaucoup de questions. S'il est dans la logique d'autosatisfaction, basta. Il n'a qu'à continuer.
J'aimerais bien, si tu as le temps, que tu assistes à la dédicace, ou mais mieux encore, que tu lises.
Je m'attends pour preuve la déclaration de Saint-Fox.
Oui, d'accord. Il y a des Saint-Fox.
Il y a les gens qui sont.
Il y a l'auteur de la contractualisation qui nous expose les premiers résultats auxquels il est en train d'aboutir.
Est-ce qu'il a évalué la contractualisation?
Peut-être que si tu lisais ça, ça pourrait te renforcer, soit dans ta critique, ou bien nuancer un peu ton analyse. En tout cas, l'information, c'est que le livre sera dédicacé le jeudi à 15h à la présidence de l'Université de Lomé. Je ne doute pas que la salle là va refuser du monde, parce que tous ceux qui s'intéressent à ce sujet ne manqueront pas de s'y rendre. Alors, sur la même lancée, c'est une tradition, l'Union, qui nous produit encore des articles de littérature et de culture générale à la page 2. Mais commençons par ce documentaire où Santé Éducation nous fait revisiter un certain Cheikh Anta Diop, l'un des tout premiers intellectuel de stature mondiale au 20e siècle.
C'est pas Santé Éducation.
L'Union, ouais. S'il te plaît. Eric?
Non, je lui accorde ça. Je lui accorde ça. Il vient de quelque part. Alors, Cheikh Anta Diop, un égyptologue, un scientifique, un homme politique, qui fait l'unanimité quand même au sein de l'élite africaine.
Et voire même mondiale, hein?
Oui.
Aujourd'hui, on lui reconnaît ses prouesses.
Vous savez, pour la petite histoire, Cheikh Anta Diop a postulé pour un doctorat en France en 1954. Mais par ses recherches, par ses travaux, ce qu'il a proposé n'a pas été accepté. Et ce n'est qu'en 1960 qu'il a eu finalement son doctorat. Ouais. Parce que Cheikh Anta Diop était en train de dire clairement
que l'Afrique,
contrairement à tout ce que l'histoire, à tout ce que les grands historiens avaient déjà mis sur la place publique, il était en train de dire que l'Égypte, que la civilisation égyptienne a été une civilisation mise en place par les Africains,
les
négro-africains, les noirs. Cela n'a pas été tout de suite accepté. Et pourtant, Cheikh Anta Diop, cela ne l'a pas refroidi dans ses recherches. Il a continué et il a démontré à tout ce monde. Vous savez, aujourd'hui, quand vous allez au Sénégal, vous avez l'une des plus grandes universités
publiques
au nom de Cheikh Anta Diop. Mais vous savez, la première heure que vous passez dans cette université-là devant un professeur, il vous dit, voilà, vous êtes les bienvenus à l'université Cheikh Anta Diop, et que ce monsieur est un grand intellectuel, il faut faire comme lui, il faut faire
Eric,
plus que
nous. On ne peut pas parler de le centenaire de la naissance de Cheikh Anta Diop. Il y a ce film, un film qui vient de sortir, en accès libre, on lira l'article à la page 2 de l'Union, mais surtout, on visionnera le film.
En réalité,
il y a déjà beaucoup d'idées sur cet adiop.
Non, en réalité, ce film-là a été fait depuis 1996.
Ah,
okay. Et donc, c'est une réédition en Wolof, qui est sa langue, maternelle et en swahili. Donc, c'est juste une traduction de ce film qui a été fait depuis 2016.
Et s'il vivait actuellement, Tchekanta Diop aurait eu 100 ans, plus précisément 15 jours.
Il aurait eu 100 ans le 29 décembre prochain.
Et nous anticipons.
Oui, non, ce que je voulais, on ne peut pas parler de Tchekanta Diop sans parler de la datation carbone 14.
14, oui.
C'est par là qu'il a convaincu le monde scientifique.
Oui.
Que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et ça, beaucoup de gens, au bout où on en parle peu, il va falloir qu'on puisse encore en parler.
Merci. Ça fait plaisir d'avoir des patriarches à son plateau. Ils vous rappellent des choses qui s'étaient passées pendant que vous n'étiez même pas né. Mais revenons à l'actualité, toujours.
Ce que m'inspire à l'endroit de la jeunesse, c'est il n'y a qu'un seul salut. C'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Information égale la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel.
C'est ce à quoi nous exhortait Tchekanta Diop.
Et aussi l'autre là, il faut apprendre à lier
le bois au bois. C'est Tchèque Amadou Kan dans l'aventure
avec lui. Oui.
Merci. Alors rapidement, vient de paraître aussi
l'art de vaincre sans avoir raison.
Merci beaucoup.
C'est ce qui nous a manqué.
Alors il y a une nouvelle parution aussi dont nous parle l'Union. Il s'agit de Ma Poupée. C'est un livre album qui passe à la télé. C'est de Kokouvi Jifa Galé, et quand je vois les noms et prénoms, ça doit être un compatriote.
Oui, c'est un compatriote togolais. C'est le titre de son ouvrage, Ma Poupée passe à la télé. Mm-hmm. Donc, c'est une histoire d'une poupée qui a perdu sa copine, mm-hmm. et donc qui a suscité, cette perte-là a suscité le réveil de toutes les poupées et de tous les enfants du milieu. Et donc, ils sont jusque-là en train de chercher cette poupée-là. Et donc, c'est toute une histoire qui se raconte derrière cette poupée qui s'appelle Malaika. Et donc, je crois que c'est un ouvrage comme ce monsieur Diffa Galé. Lui-même, il est économiste de formation et il a fait beaucoup de résidences culturelles avec Sami Tchak et d'autres. Et donc, ça lui a permis d'écrire. Il écrit beaucoup, mais il faudrait encore un peu plus de temps pour que ses œuvres soient quand même au firmament.
Je rappelle que il n'y a pas longtemps, nous parlions de la promotion du label Togo, du consommer local. Oui. Nous sommes invités, nous, le grand public, à encourager nos hommes de culture, notamment les écrivains, en acquérant leur livre, en le lisant et en le critiquant. C'est ainsi que leur œuvre dépasseront le Togo pour envahir le monde entier.
Et surtout l'introduire dans le cursus, dans le curricula
l'enseignement de nos écoles.
Et puis surtout, Galé Diffa, il a une association qui essaie de promouvoir les livres pour enfants. Et donc, lui-même, c'est ce qui fait beaucoup. Et donc, tous ces livres-là parlent beaucoup de la vie des enfants.
Merci. Alors que les parents que nous sommes, que nous recommencions à lire et à offrir de plus en plus les bandes dessinées, les livres à nos enfants à leur anniversaire, plutôt que des cadeaux qui coûtent la tête. Alors que quand on offre un livre à son enfant, c'est tout un héritage qu'on lui bâtit. Alors Eric, on termine rapidement avec le volet spectacle, avec toi, avec les chants, dans les chants. Alors vous me direz quel chant se trouve dans quel chant. C'est le produit, je crois, d'une résidence agri et culture.
Oui, qui va se passer à l'Institut français du Togo. Et donc c'est faire une certaine jonction entre l'agriculture et la culture. Et donc, quand on dit chant dans les champs, c'est chant comme chanson, comme mélodie, dans les champs, mm-hmm. les champs sols où l'on va cultiver. Mm-hmm. Et donc, c'est pour dire en réalité qu'il n'y a pas trop d'écart entre la culture comme connaissance, comme vie et la culture agricole.
Merci, merci à notre auditeur homme de culture, M. Sonsi, mm-hmm. qui nous écoute hein, et qui co-anime avec nous. J'espère qu'il va appeler à 12h, comme ça les messages qu'il m'écrit à moi, il va les porter.
Sonsi Ferdinand ou...
Sonsi, bon, son prénom m'échappe un peu. Mais restons toujours avec les hommes de culture, n'est-ce pas, Ambroisine?
Oui.
Notamment avec un compatriote hein, qui se fait ambassadeur de la culture togolaise en France. Il s'agit de l'ami Gustave Akpeu Jonda.
Oui, il présente à l'exposition Portrait Regard d'aujourd'hui, une collection de sculptures qui représente 100 têtes, 100 visages. Mm-hmm. C'est une collection unique de 100 sculptures en terre cuite et rouillée, représentant des têtes et des visages. Il dit que c'est une archive visuelle des mémoires humaines qui invite à la réflexion et à l'action pour une meilleure humanité. L'artiste sculpte, peint et sculpte du rouillé à partir de la limaille d'acier. La rouille n'est ni laideur, ni ruine, ni désolation, dit-il. Il est lié au temps, aux souvenances. C'est l'impact de la puissance du temps sur les objets, voire sur les êtres humains. Et son discours sur la rouille est une sorte de provocation à agir, à se questionner sur tout ce qui se passe. Il compare sa rouille au silence face à l'injustice. Et moi, j'ajouterai à l'indécision. Tu sais, ça, cette indécision qui, par exemple, amène à garder un parfait incompétent dans un système qu'on veut évolutif quand même dans le sens positif, mais pour donner quel résultat?
J'aime bien ça, ce que tu dis là. Hein? Alors, il nous arrive de garder des incompétents
dans
une société qui veut aller de l'avant. Ces incompétents qui freinent tout le mouvement
et
d'aller de l'avant.
Qui met toute la charge sur les autres et en même temps, ôte la chance à quelqu'un d'autre de démontrer sa compétence. Vous savez, quand on fait ce qui est bien, on ne peut pas se tromper. Mmh. Et donc, cette indécision est aussi une rouille. Et ça fait partie, selon moi, des rouilles que présente M. Jonda.
Oui.
Je trouve que cette indécision est la source de beaucoup de maux dont nous souffrons. Je mets dans cette indécision la corruption, la mauvaise gouvernance et tous ces mots-là, les frustrations qui découlent de ces mots et
la
qui font
de la médiocrité.
Et tout ça, je mets ça dans cette rouille. Vous savez, l'artiste est dans son monde. Il appelle à l'existence des choses que nous ne voyons pas. Mais lui, il a un regard sur certaines choses et il a sa façon de les remettre en surface. Et je trouve que vraiment, il va nous falloir nous départir de cette indécision qui vous comprime, qui vous pressure et malgré votre force, vous vous rendez compte que c'est une affaire de suivi. C'est pas une affaire de force.
Ambroisine, si on arrive temps, à la solution à cela, nous l'avons depuis hein, the right man at the right place. L'homme qu'il faut ou bien la femme qu'il faut
à la place qu'il faut.
Et comme ça, nous pourrons aller de l'avant.
D'accord.
Eh bien, Gustave Jonda, on peut le visiter hein, du 23 au 26 novembre hein, 2023 à Paris à l'exposition Portrait Regarde aujourd'hui.
Et il est présenté par la Fondation Mamblé Agboudan.
Ah.
En collaboration avec une
et
autre.
Et vivement qu'à son retour, et lui-même, Gustave Jonda, et sa promotrice Mamblé Agboudan organiseront la même exposition ici au Togo. Pas seulement à Lomé, hein. On peut aller à Salivé, hein, chez Isidore Akolo, ou bien venir chez moi à Haute, ou bien à Dangbe, hein, un peu partout. Pour que les Togolais se rendent compte de tout ce que nous pouvons
produire. Ce sont des gens qui ont une façon de voir les choses et de façon très élevée et qui se mettent au-dessus de nous. Et il faut qu'ils vous donnent les codes pour que vous puissiez voir comme eux. Mais ils arrivent à dépeindre certaines choses que nous vivons réellement.
Merci. Alors, je te garde encore un moment de cette exposition avec Gustave Jonda. En France, revenons ici au Togo avec un forum que le REMAPSEN va organiser du 21 au 23 novembre prochain. De quoi s'agira-t-il, Ambroisine?
Alors, c'est le REMAPSEN, d'abord, c'est le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement. Mm-hmm. Le réseau a son siège en Côte d'Ivoire et dans les pays membres, il y a une coordination. Et la coordination, je suis la coordonnatrice nationale. Mm-hmm. Et nous sommes une fédération de médias engagés pour la santé et l'environnement. Nous sommes des bénévoles de la santé et de l'environnement. Et nous organisons du 21 au 23 un forum sur la santé infantile. Nous parlerons de la nutrition, nous parlerons de la vaccination et bien d'autres points qui gravitent autour de la santé infantile. Une soixantaine de journalistes africains participeront à cet atelier-là qui bénéficie de l'appui technique et financier de l'UNICEF région. Et ça se tiendra à Lomé. Voilà, des journalistes africains. Et je crois qu'il y aura une quarantaine d'étrangers de la région Afrique de l'Ouest et Centre et Madagascar.
Merci beaucoup pour ce forum juste parle de la santé.
Oui, oui, juste un mot.
Isidore.
Partie de ça. Au fait, c'est le REMASTP qui est transformé.
Effectivement.
Et le REMASTP est né au Togo.
Bien sûr.
Mm-hmm. Oui. Quand le siège, on me dit qu'aujourd'hui le siège se trouve
le,
à Abidjan.
Le REMASTP est porté.
Oui, permets que je puisse terminer.
Bien sûr, bien sûr.
Parce que je suis le vice-président de REMASTP.
Tu fus?
Oui. Je suis le vice-président.
Oui.
Après Noël Tadegnon, c'est Thibault Adiboudin qui arrive.
Alors justement, je dois te dire comment vous avez fait pour que ce que vous avez créé ici se retrouve maintenant dans un pays.
On n'a pas le soutien. C'est tout comme on a créé la maison de la presse au Togo. Vous allez au Sénégal, les Sénégalais sont venus se copier. Aujourd'hui, vous allez au Sénégal, c'est tout un immeuble.
Je veux dire...
C'est ça le gros problème auquel nous sommes confrontés.
Vraiment, c'est vrai, le REMAPSTP a donné, c'est le REMAPSTP. Le REMAPSEN est né des cendres du REMAPSTP.
Voilà.
Le REMAPSTP qui s'occupait de sida, du paludisme et de la tuberculose. Et je faisais partie des participants aux ateliers de REMA-STP. Et en 2020, avec l'émergence d'autres maladies, on s'est dit, il faut réfléchir à l'étendre, à ne plus se cramponner sur quelques maladies seulement.
Non,
et c'est comme ça
d'accord.
que...
Mais qu'on dise que
le siège
se trouve à Abidjan, ça veut dire que...
C'est la réalité.
Mais les gens sont venus s'inspirer de nous et ils nous dépassent.
Maintenant, Isidore,
fais
en sorte de ramener le siège.
Il faut quand même aussi dire que quand il y a certains projets, qu'on arrive à trouver des gens qui portent pour porter des initiatives, les initiatives à l'échelle nationale.
Merci,
et
merci.
Les conseils.
Alors, le REMAPSEN, ce sera du 21.
Du 21 au 23, nous parlerons de la santé infantile. Soutenez-nous.
La santé publique, qui est d'ailleurs à l'honneur aujourd'hui. Vous rappelez, depuis quelques jours, nous parlons de cette première édition de la Semaine de la Santé que l'Ordre national des médecins du Togo est tendu à l'Ordre national des pharmaciens du Togo et à tous les acteurs de la santé. Semaine ouverte depuis la semaine dernière, vous permettez la tautologie. Et si Dieu le permet, demain même, le Club de la Presse va se délocaliser à la maison des jeunes à Amanda Homé, qui abrite les principales activités de cette semaine de la santé. Si vous avez le temps, notamment ceux qui habitent la zone, vous pourrez vous transporter sur les lieux à la maison des jeunes. Un endroit quelque peu enclavé, mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Vous saurez trouver, venir et co-animer avec nous dans le cadre de la semaine de la santé que les médecins et corps associés organisent. Alors, sans transition, nous débordons sur les articles de vos parutions, notamment Eric Johnson, l'Union qui nous parle de la recherche cotonnière au Togo, avec les acquis que l'Institut togolais de la recherche agronomique a pu accumuler en 74 ans d'existence.
Ah oui. En effet, c'est en prélude à la célébration de la Journée internationale du coton, qui est le 7 octobre, que les Nations Unies ont décidé pour pouvoir permettre à tout le monde d'avoir une idée sur l'importance de cette matière première-là dans l'agriculture mondiale. Et donc, ça a permis à l'ITRA de faire le point de ces 74 ans d'existence. 74 ans, c'est beaucoup, hein, c'est depuis 1948 que un premier institut de recherche a été mis en place à Kolokope pour
c'est dans la voiture de Zior.
De Zior pour la recherche.
Mais on dit plutôt Kolokope. Ce que tu as dit là, ça peut.
mais attends, c'est comme ça tout le monde l'appelle.
Non non, c'est Kolokope.
Bon, ok, Kolokope. Et donc l'institut qui était créé en 1948, là, s'appelait l'IRCT. Et donc, cet institut-là était financé à 100% par la coopération française. Et donc, l'ITRA n'est arrivé qu'en 1976. Et là encore, c'est parce que la coopération française essayait de sortir du financement du premier institut que l'État togolais a repris la main en disant « Ok, par accord, nous allons quand même financer 50% de l'ITRA pour les recherches. » Alors, ce qui est important ici, c'est les acquis de ces recherches-là. Donc, il y a forcément quatre grandes sections dans la recherche cotonnière. Il y a la section génétique, la section agronomie, la section entomologie et la section agroéconomie. Et donc, à travers ces quatre sessions, l'ITRA a essayé de dire à peu près ce qu'il a pu faire. Et donc, on note en ce qui concerne la section génétique qu'il y a 13 variétés qu'on appelle STAM, 13 variétés de coton sur lesquelles l'ITRA a fait des recherches. Aujourd'hui encore, il y a 3 autres variétés qui ne sont pas encore homologuées. Mm-hmm. Et donc, les 13 premières variétés qu'on appelle STAM, c'est ça qui permet à l'ITRA de dissimuler la culture du coton dans nos pays et surtout dans la sous-région. Parce que après, il faut reconnaître que beaucoup de pays de la sous-région viennent faire leurs expériences au niveau de l'ITRA installé chez nous. Et donc, sur le plan agronomique, on a parlé de la culture entre les temps. C'est-à-dire que quand on prend une certaine variété, quel temps de culture on a dans une saison, mm-hmm. qu'est-ce qu'il faut apporter concrètement comme intrant à cette culture-là pour mm-hmm. que mm-hmm. la culture puisse porter.
Et surtout nous donner un bon rendement. Un bon rendement. Parce que quand nous avons encore moins d'une tonne à l'hectare, pour le coton en 2023, nous sommes pratiquement risibles à la fin du monde entier, alors que des pays en sont à 4 et approchent les 5 tonnes à l'hectare. Nous peinons encore à avoir une tonne à l'hectare.
Oui, j'aurais placé un mot l'ITRA, c'est vrai, ils font des recherches, mais est-ce que ces recherches-là débouchent sur des résultats probants?
Si, il a parlé des variétés
que l'ITRA a pu mettre en exergue. Mais l'ITRA est là pour renforcer, comment dirais-je, la productivité si le rendement est faible. Bon, allons nous poser des questions.
Oui.
Il fut un moment même, on a introduit le coton BT.
BT, c'est quoi?
C'est les Burkinabés qui utilisent assez une variété de coton.
Encore bio ou bien OGM?
Non, pas bio, OGM.
Uh-huh.
OGM?
Oui, non. En réalité, il y a quelque temps, nous avons eu à publier l'immersion qui a été faite par les cotonculteurs burkinabè au Togo, mm-hmm. parce que ils ont remarqué que les recherches de l'ITRA leur permettent plutôt d'avoir un bon rendement sur leur sol. Et donc, c'est pour ça, quand nous parlons des sections, il y a la section entomologique,
ouais.
entomologique, où chez eux, il y a, comment vous appelez, certaines contraintes phytosanitaires.
Ouais.
Alors que chez nous, on utilise encore des pesticides qui ne sont pas acceptés chez eux.
Oui.
Et là, ça leur permet d'avoir un meilleur rendement. Mais toujours est-il que eux, ils viennent encore ici pour s'imprégner de ce que fait l'ITRA.
La leçon que nous en tirons, c'est que aucune société ne saurait prospérer sans recherche.
Ouais.
Et quand on parle de l'ITRA, c'est vrai que c'est parti avec la coopération française, l'État togolais s'y met, mais dans les grands pays, on voit des sociétés,
oui,
on voit des formations, on voit des fondations, même de grandes universités qui financent la recherche pour faire prospérer vraiment
ça, il faut que la recherche respecte les valeurs humaines, les règles humaines. Je vais donner un exemple simple,
mm-hmm.
et je vous présente mes excuses, hein, franchement, mais c'est quelque chose que je me pose vraiment des questions. Avant, pour avoir un œuf, il faut un accouplement entre le coq et la poule.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, c'est quoi ces poules qui portent des crêtes et qui pondent des œufs sans accouplement? Les œufs que nous mangeons aujourd'hui, on ne sait pas réellement. C'est les fruits de la recherche dont on parle.
Mm-hmm.
Mais peut-être que ça porte des conséquences qu'on aura peut-être dans 10 ans, dans 15 ans. Vous me direz que, bon, j'ai des idées qui ne sont pas de cette époque, mais je suis d'accord avec vous. Mais je m'inquiète aussi parce que ce qu'on sait, c'est que il y a des poules aujourd'hui qui portent des crêtes, qui pondent des œufs sans apport du coq. Et on ne sait même pas à quoi les coqs servent aujourd'hui. Si on doit transporter cette recherche-là vers notre monde des
c'est
humains.
C'est une réalité que quand il y a des poulaillers, quand vous y allez, vous ne savez pas qu'est-ce qu'un coq.
Qu'est-ce qu'il y a,
en fait, on les appelle les pondeuses.
Ok.
Oui.
C'est des pondeuses.
C'est même pas lesquelles j'ai dans la main.
Oui.
En tout cas,
ces œufs-là ne portent pas des germes.
Ok, tout ça là, qu'est-ce qu'il y a dedans?
Des œufs, ça.
Avant,
des œufs en poudre.
Quand on préparait un œuf, vous aviez le blanc de l'œuf
et
le jaune de l'œuf.
Aujourd'hui, le jaune.
Vous préparez un œuf, vous avez le blanc de l'œuf et vous avez le bleu
ou le noir.
Ailleurs, vous avez des œufs en poudre.
Non, vous faites. Merci. Alors, revenons quand même de la coton culture. Allons au reboisement. Je rappelle que je crois c'est en 2000 combien déjà en 2020 que le gouvernement a lancé l'ambitieux projet que le Togo plante 1 milliard d'arbres en 10 ans, ça va être de 2020 à 2030. Nous sommes à 3 ans. Alors aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau du ministère de l'environnement,
oui.
que à notre niveau individuel, combien d'arbres avons-nous déjà plantés sur le milliard? À l'heure du bilan, chacun répondra. Mais il y a quand même des projets intermédiaires, notamment ceux dont nous parle l'Union, les forêts communautaires pour améliorer le couvert végétal, photo à l'appui. Et puis il y a ce projet pour la restauration des paysages forestiers, il y a le projet Forest for Future, dont vous nous parlez aux pages 4 et 7. Eric ?
Oui. Quand tu parlais du reboisement, c'est-à-dire 1 milliard d'arbres en 10 ans...
De 2020 à 2030.
De 2020 à 2030, c'est un projet quand même très ambitieux. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui se fait, c'est que le ministère de l'Environnement veut que tous les citoyens s'y mettent.
Mmh.
Et ce ne sera plus seulement le 1er juin où nous tous, nous allons planter un arbre et on va attendre le 1er juin prochain pour aller voir si l'arbre a poussé ou pas. Ou même parfois, on n'en plante pas, mais on en coupe, on en utilise comme on veut. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que le fait, c'est d'appeler les communes à participer quand même à cette campagne de reboisement. C'est pour ça on demande aux communes où il y a quand même des petites forêts, vous savez, des places aérées et tout ça, que ces communes-là participent au reboisement, participent à l'implantation des arbres et tout ça pour permettre quand même que le couvert végétal soit restauré. Et donc, ce projet aussi participe de cela. Le projet Forest for Future est mis en œuvre dans plusieurs pays. Et donc, c'est pour permettre la restauration des fonctions écologiques et productives des paysages forestiers et dégradés.
Merci. Oui, je sais qu'il y a des communes qui s'approprient ce projet, qui ont de petits projets en la matière, les communautés aussi, vivement que cela soit le fruit d'un mouvement d'ensemble, comme dirait l'autre. Isidore ?
Oui, je doute fort de la réussite de ce projet et Forest for Future.
Forest for Future. For Future. Des forêts pour l'avenir.
Pour l'avenir, je doute fort. Vous savez, mais quand on était tout petit, les avenues qu'on avait, tout au long, il y a des arbres. Aujourd'hui, on les coupe.
Oui.
Quand vous prenez et avenue Maman Danida, du Grand Marché jusqu'au lycée, mais c'est bordé d'arbres auparavant.
Oui.
Aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais qu'est-ce qui se passe?
Oui,
le projet Forest for Future a ciblé des cantons.
Je n'en disconviens pas.
Je dépasse ce projet.
C'est un phénomène qui est réel.
Oui.
D'accord. Avant même, on a des fleurs jardins partout, des petits jardins.
Oui.
Quand vous allez au lycée, à l'hôpital de Tourcoing, il y avait un petit jardin là-bas. En face de l'ancienne...
Là où il y a aujourd'hui une station d'essence
et
tout ça.
Mais écoutez...
Au bord de la lagune.
De la lagune, même après avoir dépassé...
Même à Bonqué,
c'était...
À chose, derrière la clinique Biassa,
il y a
un jardin là-bas. Et il y a un jardin à chose.
À Kondomé, toutes ces choses-là.
Partout.
Vous avez raison, il y a plus symbolique. Le ministère même de l'Environnement des Ressources Forestières. Vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait plein d'arbres. Mais allez-y aujourd'hui. On a coupé tous les arbres. On a construit un nouveau bâtiment qui abrite le cabinet du ministre maintenant. Et tout le reste de l'espace est pavé. Alors que c'est ce ministère qui devrait donner l'exemple de par la verdure et là-bas. Voilà comment...
Vous allez CHU Sivans Olympio.
Oui.
Il y a un petit jardin.
Il y
avait un petit jardin au niveau du feu rouge là-bas, le faux tricolore.
Oui.
Ça n'existe plus.
Oui. Voilà des symboles.
Aujourd'hui, avec ce projet Forest for Future, c'est le ministère allemand de la coopération qui finance ça.
C'est une honte nationale.
Et ça veut dire que le niveau de dégradation de nos forêts est très avancé. Et il faut l'appui de l'extérieur pour nous permettre de remettre en place
Merci. La couverture végétale. Nous avons terminé par ce sujet qui nous interpelle à plus d'un titre. Nous en parlons souvent. Aujourd'hui, l'Union nous y ramène encore. C'est le travail des enfants. Et c'est un constat, malheureusement, que le travail des enfants est toujours en hausse. Et en Ambroisine, le travail des enfants, c'est toujours en hausse dans notre pays.
Oui, ce qui, moi, me choque, c'est que ce sont les femmes qui savent quand même quelle est la douleur, ce qu'on endure. Hein, quand on parle de maternité, ce sont elles qui exploitent le plus les enfants, oui. qui les battent, oui. qui les maltraitent. Oui. C'est là où on met...
Ils des salaires de misère c'est si là... jamais il y a salaire.
Oui, c'est là où on met un point d'interrogation. Où est passé notre... Je ne sais pas comment
là, c'est
dire.
Une femme qui s'adresse aux femmes maintenant.
Vraiment,
nous t'écoutons et nous te regardons.
Et vous passez votre temps et toute cette haine, toute cette, je ne sais même pas comment qualifier. Et ça se transmet à leurs enfants, qui les transmettent à leurs enfants. Et les enfants d'autrui, que place sous votre responsabilité, à qui vous devez donner un peu de votre humanité, un peu de votre douceur, vous les comprimez, vous les mettez dans une situation où elles se disent, mais si jamais celle-là avait été ma mère, vivement, un peu plus d'amour, un peu plus de douceur dans l'éducation qu'on donne à nos enfants. Et la naissance des enfants, ça se passe de la même façon. La douleur est pratiquement la même chose. Je ne vois pas pourquoi un enfant serait différent d'un autre enfant. La preuve, quand l'enfant arrive chez vous, elle vous appelle d'abord maman. Et donc, moi, je n'arrive pas. C'est la question que moi, je me suis toujours posée. Pourquoi ce sont des femmes qui maltraiteraient des enfants et des enfants encore filles?
Merci, merci. Il est 12h, mais nous partageons juste... Le titre de cet article du confrère L'Union qui porte nouvelle validation du Togo à la norme ITE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Les 7 questions auxquelles le Togo devra répondre au plus tard le 1er janvier 2024. C'est dans un mois et demi, Eric.
Oui, c'est dans un mois et demi. C'est pas raté du tout. Ils sont obligés de faire ça. Mm-hmm. Parce que c'est des questions qu'on leur avait posées dès qu'ils ont fait leur entrée. Enfin, je dis ils. Le Togo mm-hmm. a fait son adhésion à mm-hmm. l'initiative ETI.
Oui.
Et donc,
ça, c'était depuis 2008.
Oui. 2008.
Le dernier rapport, ça, seulement de 2020. Il faut dire le rapport de 2021-2022.
Non, le rapport de 2019.
Oui.
C'est sur ça qu'on leur pose les 7 questions.
Mais nous sommes en retard pratiquement de 4 ans.
Mais c'est parce qu'ils
ont
OK. Eu...
On nous laisse jusqu'au 1er janvier pour... le coordonnateur, c'est monsieur... pourquoi je oublie son nom?
Le ministre...
L'ancien ministre...
Agbemadon.
Oui, Agbemadon. OK, nous lui faisons confiance. Il a...
Non, est-ce que c'est lui?
C'est lui le coordonnateur.
Il est le coordonnateur.
C'est lui qui porte le projet.
Oui, il faut qu'on lui donne les informations.
Non, il faut qu'il demande et il faut qu'il arrive à obtenir les réponses aux questions que l'ITIE lui pose.
Maintenant, ce n'est pas que l'initiative, mais il y a aussi la société civile qui doit répondre ici.
Mm-hmm.
Et ici, c'est pour leur demander, par exemple, est-ce que vous arrivez à faire des critiques sur l'industrie extractive au Togo. Quand vous le faites, comment les autorités réagissent? Alors, tout ça, c'est des réponses.
Nous laissons le soin aux auditeurs de découvrir cette question. C'est dans l'Union, le journal L'Union. Il est déjà midi passé, nos auditeurs s'impatientent. Alors, la pause, et puis nous renouons avec eux.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour au studio, nous sommes à l'écoute de vos questions, de vos commentaires. Juste rappeler que nous avons parlé aujourd'hui du premier anniversaire. Ça fait un mois que Israël et Hamas sont en guerre avec toutes les victimes collatérales. Nous avons parlé également du 7 novembre comme journée de l'écrivain africain avec tous ses articles y référents. Nous avons parlé du Togo qui est sollicité pour se faire le parrain aux côtés des États-Unis d'Amérique entre le Niger et la France pour le rapatriement des troupes françaises et d'autres sujets de l'actualité. À présent, la parole est à vous. Premier auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour l'ami en ligne. Il n'a pas le retour. Et il va revenir sûrement. Peut-être en attendant le premier auditeur évoquer quelques autres articles dans les parutions, comme le tribunal militaire, hein, l'affaire Sanguine et autres, dont l'Union nous dit des grincements de dents, la colère et pleurs au tribunal militaire. L'audience s'est tenue hier et les avocats de la partie défense ont commencé leur plaidoirie. Ça va reprendre aujourd'hui, sûrement, dans les jours à venir.
Allô?
Nous aurons le verdict. Oui,
allô?
Bonjour l'ami.
Bonjour, Sass.
Oui, c'est monsieur
Patrick.
Pardon?
Patrick.
Patrick.
Oui.
C'est Sizing à Kadiao?
Tout à fait.
Ah, il y a un petit moment.
Effectivement.
Ok, nous vous écoutons.
Ok. Et d'abord, je remercie le plateau.
Mm-hmm.
Et par rapport au procès, j'invite les Togolais, et partout où ils sont, que nous puissions avoir une certaine humilité. Vous voyez, dans ce monde en Kabyle, on dit « Oh, le refaire !» Nous devons aller doucement dans ce monde.
Mm-hmm.
Parce que, en toute chose, la roue tourne. Il y en a certains qui se disent les plus responsables de ce pays. La vie n'est pas comme ça. Ça tourne. Oh, c'est mon premier point.
Merci.
Le second point, hier, vous avez parlé, et quand M. Tchagnon avait dit que bon, le chef de l'État était allé à Togoville, et en ajoutant, vous avez dit que sa maman aussi était catholique. Pourquoi vous avez mis à l'imparfait l'auxiliaire être était? Pourquoi ne pas dire être catholique?
Donc, ça a dû m'échapper. La maman de Fort, telle que je la connais, c'est qu'elle elle est vraiment croyante, dévote. Ceux qui fréquentent la paroisse Université Saint-Jean peuvent en témoigner. C'est pèlerinage un peu partout, jusqu'au Vatican. Merci. À Rome. La dame que je connais, elle est vraiment chrétienne, catholique, dévote. Merci. Alors, pour le temps, ça a dû m'échapper, vous savez, dans le feu de l'action, un lapsus. Merci beaucoup, Patrick Sizi Akadjao. Deuxième auditeur.
Bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Assiongbon.
Monsieur Assiongbon.
Oui, vous savez, le plateau.
Vous savez, les Assiongbon, c'est comme les Akapo.
Oui.
Ils peuvent former une ville.
Oui, c'est bon.
C'est pour avoir une idée de votre prénom, quoi.
Ah, Monsieur Assiongbon. Assiongbon, j'en ai
haut. Oui, je sais. Assiongbon, je sais que les Assiongbon sont dans les hauts de la langue. Votre prénom?
Assiongbon David.
Assiongbon David. Ok. Oui. Okay. Allons-y.
Vous savez, le plateau.
Nous saluons aussi.
Ma question à Monsieur Isaac Collor.
Oui.
Si un ennemi est dans sa maison, il m'agresse dans ma maison, si je veux réagir, je fais comment? Je fais un rapport par rapport à la guerre d'Israël et Palestine.
Oui.
Parce que tout le monde accuse Israël. Pas que j'ai posé cette question. Deuxième question. Bon, j'ai eu une poule la Prusse et après des poules là. J'ai eu une poule locale à la maison. Il n'y a pas de coq. À chaque fois, ils font des œufs. Est-ce que l'œuf là est bon?
Ah bon? Vous avez une seule poule chez vous à la maison? Qui pond des œufs?
Oui.
Bon, vous-même, quand vous êtes allé acheter la poule seule là, quelle était votre intention, votre projet?
C'est pour l'immoler. Moi, j'ai pas pu l'immoler.
Uh-huh. Maintenant, elle pond des œufs. Et les œufs là, vous en faites quoi?
Je mange ça.
Ah, ok. Nous souhaitons. Nous souhaitons bonne dégustation. Nous allons vous suivre dans la consommation de vos œufs. Enfin, nous souhaitons le meilleur. Merci. À la question à Isidore, quelqu'un vient t'agresser dans ta maison, qu'est-ce que tu fais?
Non. Il t'a la joue gauche.
Oui, je t'en la. Si je suis vraiment.
Ah bien, je prends note. Demain déjà, Eric et moi, on viendra chez toi à la maison.
Parce que, bon, si tu ne sais pas riposter,
oui,
tu risques de déborder. C'est pourquoi, bon.
En tout cas, ce problème entre Israël et Hamas, c'est des questions qui nous dépassent. Nous en appelons seulement à l'humanisme des deux camps. S'il vous plaît. Oui, le troisième auditeur.
Oui, allô.
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur
Nyamava.
Monsieur Nyamava, oui.
Oui. Je salue le plateau.
Nous vous saluons en retour.
Les œufs, que ce soit pas, même si ce soit le maïs, le ikéné, tout ça là, ce sont les œufs GM qu'on nous a vendus depuis près de plusieurs décennies.
Les organismes génétiquement modifiés.
Modifiés, mmh. Voilà, c'est ce que nous mangeons depuis. Sinon, avant, là, il y avait une variété de maïs même, qu'on torifie, on amène à l'école, en récréation, on mange, on boit de l'eau. Et c'était bien. Actuellement, tout ça, là, ça a disparu. Par rapport à l'Israël, comme quelqu'un le disait pour le Togo, la communauté internationale est en marche. Même si elle est en marche comme une guimbarde pétaradante penchée à droite, elle est en marche.
Mm-hmm.
Donc, on se tue, on dit que, bon, quoi est en marche, on ne comprend plus rien. Même si ça ne va pas, ça va. On apprécie ça parce que ça se déplace.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, on s'étonne que la communauté internationale fabrique les armes. Et Damas même, ils n'ont pas d'armes, ils ont des armes. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, on doit faire attention parce que, entre-temps, quand on les suivait, en Évian, on l'appelle à Guénon ou bien à Gisan. Quand on essaie de mettre les pieds dans leur patte là, on se perd. C'est comme ça. Ce qu'on pense qu'ils marchent là. La communauté internationale est haute là. Leur patte, c'est comme à Gisan. Hein? Fait quoi?
Mm-hmm.
Chez nous, en Cabier, ou bien chez mes oncles, on appelle ça, comme Abonou.
Ah, ouais. Donc, il y a Zizan chez les Kabyé aussi.
Il y a Zizan chez les Kabyé.
Et vous l'appelez comment?
Oui, chez mes oncles là-bas, là, on appelle ça Bono.
Bono.
Aguin.
Aguin. Ouais. Ok.
Donc, il faut faire attention à leur patte là.
Merci beaucoup, monsieur Nyamavo.
Bonne émission.
Mais vous êtes Kabyé, vous appelez Nyamavo?
Oui, mes oncles sont Kabyé.
Quels oncles?
Kabyé, les Kabyé.
Quels oncles? Maternels ou paternels?
Ah ouais ouais maternelle.
Ah ok. Vous êtes un produit du Togo uni.
Oui oui oui.
Merci beaucoup.
Merci.
Prochain auditeur. Oui oui Isidore, tu répondais.
Le mieux c'est de réagir de façon proportionnelle.
Voilà.
Mais quand vous êtes en colère, vous ne pouvez pas réagir de façon proportionnelle.
Mm-hmm.
C'est pourquoi la Sainte Bible ou la Sainte Écriture nous invite à ne pas réagir violemment et quand on est agressé.
Surtout le problème de fond. Aujourd'hui, nous déplorons ces massacres horribles que le Hamas a occasionné le 7 octobre. Nous déplorons également la réponse disproportionnée d'Israël envers les civils israéliens. Mais le problème de fond est les peuples, aussi bien la population d'Israël que les Palestiniens. Que seront-ils? Où seront-ils dans 10 ans, dans 20 ans? Si le problème n'est pas résolu, est-ce que nous ne risquons pas d'avoir les mêmes effets par la suite?
Le même problème peut se poser pour la Sierra Leone ou le Libéria. C'est en 1948... l'État d'Israël a été créé de toutes pièces. Et les gens ont débarqué pour récupérer une portion. Et depuis là, ils cherchent toujours à gagner avec les colonies.
C'est l'histoire en marche.
Oui, c'est ça.
Comme la phrase, comme le verbe apparaît depuis hier. Merci, il est 12 heures passées de 20 minutes. Comme tu as la parole, tu la gardes pour ta minute de conclusion.
Isidore. Oui, il ne faut pas qu'on nous oblige à revoir l'histoire à travers. L'histoire, elle a été têtue. Tout le monde sait comment l'Israël a été créé et les soutiens de l'Israël partout. Je ne dis pas que ce que Hamas a fait est bon, mais qui a créé Hamas? C'est comme l'histoire de Ben Laden. Qui a créé Ben Laden? Donc, aujourd'hui, qui vend les armes là-bas? Donc, voilà les questions auxquelles que nous devons répondre pour savoir l'enjeu. C'est pourquoi je dis que nous risquons d'aller à un nouvel ordre et mondial.
Oui, quand sur l'actualité, ça me rappelle des fois mon premier cours de philosophie, hein. Quand le professeur nous parlait, c'est le professeur Ega, qui est devenu révérend père, maintenant qui est à Radio Maria Togo, qui nous parlait de l'homme qui joue à l'apprenti sorcier et qui est surpris par les dégâts qu'il occasionne lui-même. Eh bien, ton carton de fin d'émission, Isidore.
Toujours réitérer mon vieux carton rouge sang pour je ne sais quelle organisation ou quelle et autorité, il faut réparer le feu tricolore.
Oui.
C'est source d'accident. On a même fait un projet, feu tricolore, quelque chose comme ça là. et on a obligé les gens à porter des casques. C'est devenu réalité. Si vous ne portez pas les casques, même à minuit, à 1h du matin, et on vous rançonne, on vous écume. Mais nos feux tricolores ne sont jamais réparés. Je m'en donne pour preuve. Le feu tricolore qui est au niveau de, du carrefour, après avoir dépassé le collège protestant, carrefour
au quartier Casablanca, en face de la station Cap.
Mais on ne comprend pas.
Le rond-point,
on ne comprend pas. Il y en a plein. Sur 10, feu tricolore à Lomé, peut-être 2 sont fonctionnels. Ce n'est pas normal. Est-ce que c'est les communes? Est-ce que c'est Dagl? Puisque
le district autonome du Grand Lomé.
Ou quelle autorité serait en charge? Mais selon mes informations, ce sont les communes qui manque de moyens.
Merci de ressortir ce quartier, ce carton, décidément qui ne meurt pas parce que le problème n'est toujours pas réglé. Ambroisine?
Bien, moi, je reste touchée par tout ce qui se passe dans ces pays en proie aux violences. Tout se passe sous les yeux de la communauté internationale. On tue les enfants, même dans les hôpitaux. Et il n'y a plus de respect pour ces lieux-là. Et les gens regardent et disent bien c'est mauvais, c'est mal, mais on ne se décide pas à en venir à bout. C'est toujours cette indécision dont je parlais en début de notre émission. Il faut que ça s'arrête. Quand on regarde et qu'on ne fait rien, ça finit par grossir. Et quand ça grossit, c'est vous qui finirez par perdre votre place. Quand la maison de ton prochain brûle, si tu as de l'eau, apporte pour éteindre le feu. Vivement qu'il y ait un peu de paix dans ces pays, parce que la distance entre ces pays et les nôtres, ce n'est qu'une question de secondes.
Deux secondes.
En réalité.
Merci. Quelqu'un a dit que devant une situation d'injustice, même le silence peut s'apparenter à la complicité au crime.
Vraiment, vraiment. Qu'a-t-on vers à vous tous qui nous suivez, qu'a-t-on vers à nos lecteurs, à nos abonnés, à vous qui avez encore un peu d'humanité dans votre vie, un peu d'amour dans votre cœur à partager, qu'a-t-on vers?
Eric?
Oui, je vais donner un carton vert à un Togolais, ce que nous appelons communément les Togolais de la diaspora, qui est rentré au pays, qui a créé une association dans son village natal qui est Agbetiko, et qui est en train...
Agbetiko, c'est dans la province de Bamono.
De Bamono. Et qui est en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Il a créé une association, il a construit une ferme où il élève les poussins d'un jour. Vous savez que pour faire aujourd'hui les œufs, puisqu'on en parlait, il faut aller chercher ces poussins d'un jour là au Ghana. Les gens vont en acheter au Ghana. C'est là-bas ça se produit. Aujourd'hui, ce Togolais de la diaspora qui est rentré pour quand même apporter sa contribution au développement de son village. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit que à cause de l'exode rural, une école catholique a été fermée à Agbetiko. Parce que il n'y a plus d'effectifs.
Oui.
Donc, les gens sont tous partis. Alors, pour que tout le monde revienne, quand même, il faut
créer de l'activité qui ramène les gens et les fixe sur le terroir.
Mais
une question, ces poulets d'un jour, ils donneront plus tard des poules ou bien des coques?
C'est soit des pondeuses, des poulets de chair.
Oui, c'est ça. Des hémaphrodites.
Ouais. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain. Et ce sera depuis la maison des jeunes à Mandahomé, dans le cadre de la semaine de la santé. Comme je l'ai dit, si l'envie vous prend, vous êtes dans les environs, venez grossir nos rangs, nous allons animer ensemble et surtout nous instruire aux belles leçons que nous donnera le corps médical pour la maintenance de notre corps, de notre santé.
Pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.